toujours les montrer du doigt. Pourquoi parler d'eux avec ce mot-là? Et pourquoi ce mot fait-il rigoler? Et pourquoi, de quoi, de qui s'amuser?
Bonjour, il est bien 14h sur Radio Libertaire 89.4 FM et c'est l'heure de Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry. Aujourd'hui, nous allons rediffuser des sujets sur les droits de l'homme et de l'enfant. On va commencer par les CE1A de l'année dernière à Rosaline Franklin qui ont étudié une affiche sur les la Déclaration universelle des droits de l'homme. Puis on écoutera les petits correspondants du théâtre de l'école Thorez de l'année dernière également qui parlent d'un spectacle intitulé « Des larmes d'eau douce » qu'ils ont vu au théâtre Antoine Vitesse. Enfin, nous écouterons un feuilleton radiophonique bien plus ancien, de 94-95, qui s'appelait Abdoulaye mon ami. C'était un projet qui visait à ce que les enfants se confrontent aux difficultés d'intégration ou autres qu'ils pouvaient rencontrer à l'école et qu'ils trouvent des solutions d'une classe à l'autre en faisant appel à des professionnels. Voilà. Alors la semaine du droit de l'enfant, ce sera du 14 au 21 novembre et à cette occasion, Radio Cartable participera à une après-midi organisée à Ivry au Petit Robespierre avec l'UNICEF et tous les acteurs et actrices ivriennes. Si des classes souhaitent travailler sur ces droits et en particulier les droits à l'information et à l'expression, elles peuvent contacter la radio par mail à radio-cartable@ouvaton.org. Bonne écoute.
Radio Cartable. La radio des écoles d'Ivry.
Seul les bouches claires qui refuseront celles des clairons. Ma vigne verra tomber les frontières et les ennemis des temps disparus tendront le bras prêt à voir le but pour revoir encore et choquer la. Selon la c'est l'avenir qui pousse là. Allons là, ma vigne pousse. Selon la c'est l'avenir qui pousse là. Ma vigne verra les temps d'harmonie. Les enfants viendront comme ces raisins. Les sentiers seront moins beaux que la vie. Les hommes auront la bonté du vin. À ma vigne forte, ma vigne douce, on me dit pourquoi rêver tout cela. Vieux qui mourra quand tantôt viendra. Je mourrai tantôt, mais ma vigne pousse. Allons là, ma vigne pousse. Allons là, c'est l'avenir. Dans la terre, l'avenir qui pousse là. là, ma vigne pousse long là, c'est l'avenir qui pousse là. Allons là, ma vigne pousse long là, c'est l'avenir qui pousse là. Allons là, ma vigne pousse long là, c'est l'avenir qui pousse là.
Pour aller à la préfecture, prends la route numéro 3. Tu suis la file des voitures et tu t'en vas tout droit, tout droit. C'est un bien, c'est une piste. Pas un arbre, pas une fleur, comme c'est beau. Et triste, tu feras du 130 à l'heure.
Mets-moi ces routes goudronnées, toutes ces routes me dégoûtent. Si vous m'aimez, venez, venez, venez chanter. Venez flâner. Et nous prendrons un raccourci, le petit chemin que voici. Ce petit chemin qui sent la noisette, ce petit chemin n'a ni queue ni tête. On le voit qui fait trois petits tours dans le bois, puis il part au hasard. En flânant comme un lézard, c'est le rendez-vous de tous les insectes. Les oiseaux pour nous y donnent leur fête. Les lapins nous invitent, souris-moi, courons vite. Ne crains rien, prends ma main dans ce petit chemin. Ce petit chemin qui sent la noisette, ce petit chemin m'a tourné la tête. J'ai posé trois baisers sur tes cheveux frisés, et puis sur ta figure toute barbouillée de mûres, pour nous observer. Des milliers de bêtes se sont installées par-dessus.
Chat Inès,
Safia,
Moussa,
Sarah,
Ritej,
Amir,
Jaëli,
Jenaba
et Iba.
Nous avons 7 ans et nous sommes les élèves de la classe de CEA de l'école Rosalie Francla à Ivry-sur-Seine.
Le thème des essentiels d'un jour, une activité de mois de décembre et la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Avant de découvrir l'affiche, nous avons visionné une vidéo d'un jour, une question pour faciliter notre travail.
La Déclaration, c'est un texte avec 30 articles à respecter.
Les droits de l'homme, c'est les libertés de tous les êtres humains.
C'est pour tout le monde, les hommes et les femmes.
Sur l'affiche, il y a une fille qui porte un bonnet phrygien.
On le connaît, c'est le symbole de Zeus dans la pique 2024.
ça représente la France. Donc en France, on doit respecter cette déclaration.
Il y a 3 panneaux, liberté, égalité, fraternité. C'est la devise de la France.
Ces panneaux sont sur un chemin qui représente la feuille des droits de l'homme.
Sur ce grand chemin, nous rencontrons une école.
Tous les enfants ont le droit d'aller à l'école.
Il y a aussi un oiseau, c'est une colombe blanche.
C'est le symbole de la paix.
La Déclaration universelle des droits de l'homme existe pour que les humains puissent vivre en paix.
Il y a une balle de tennis.
En fait, on pense que c'est la Terre car la Déclaration considère toute la Terre. En suivant le chemin, on croise une ambulance.
Elle représente le droit d'être bien soigné.
Nous voyons des moyens de transport.
Une voiture, un vélo, un avion, nous sommes libres de voyager.
Il y a aussi une balance et les 2 plateaux sont au même niveau.
C'est pour nous rappeler que nous sommes tous égaux.
À la fin de notre chemin, il y a une fille et un garçon qui discutent.
Ils n'ont pas les mêmes idées, mais ils peuvent en parler car exprimer ses idées sans peur et un droit.
Il y a 75 ans, juste après la Deuxième Guerre mondiale, 58 pays se sont mis d'accord sur le droit que chaque être humain doit avoir.
Le but est d'éviter les conflits. C'est pour ça que les pays doivent tout faire pour que les droits soient respectés chez eux et partout ailleurs.
Thank you. les petits correspondants du théâtre.
Nous sommes les petits correspondants du théâtre Antoine Vitez. Nous sommes 12 élèves du centre de loisirs Torres. Nous avons Thomas.
Coucou.
Nous avons Maïssa.
Salut.
Nous avons Aïdine.
Bonjour.
Nous avons Mélina.
Salut.
Et nous avons moi. Bonjour.
Mercredi 24 avril, nous sommes allés voir des larmes d'eau douce. Nous avons pu discuter avec les artistes en bord plateau. Il y avait le metteur en scène,
Alain Baptiste.
Les deux comédiens,
Sylvia Amato, comédienne.
Le
Thierry Desvignes, comédien marionnettiste.
Le musicien,
Guillaume Julien. Nous allons raconter l'histoire du spectacle.
Le titre, en fait, il se nomme « Des larmes d'eau douce », parce que c'est l'histoire d'une petite fille qui pleure des larmes d'eau douce depuis la mort de sa maman.
Ses pleurs sont précieux, car dans le village, il n'y a plus d'eau.
Vu que ses larmes, on peut les boire, elle va être très convoitée par tout le monde.
Ils vont la torturer pour avoir de l'eau. Son père met au travail Sophia pour gagner de l'argent.
Regardez avec attention! Les larmes passent par cette gouttière et vont directement à l'entonnoir, sans qu'une seule goutte ne soit perdue. Tout est optimisé. Ici, vous voyez la fesseuse. Ces battoirs frappent les fesses de la petite fille pour qu'elle n'arrête pas de pleurer. Et en cas de nécessité, si quelque chose s'arrêtait de fonctionner, un opérateur interviendrait en la pinçant avec trois autres enfants versant des larmes d'eau douce. Nous deviendrons autosuffisants. Et croyez bien que j'ai pensé à tout avec tous ces enfants qui sont dans la rue. On peut recruter une quarantaine. Vous imaginez 40 miséreux passant par la fesseuse, un rêve, non?
La personne qui défend Sophia, c'est Felipe, qui est son ami. Et Felipe va aider Sophia à sortir de ce mauvais cauchemar.
Il y a la grand-mère aussi qui défend Sophia. Quand le village, le maire et tout ça, le père, ils voulaient rattraper Sophia. Et pendant ce temps-là, Sophia et Felipe étaient en train de partir. Et la grand-mère les retenait.
Oui, très exactement.
Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te délivrer. Je vais te cacher. Où? Comment? Je ne comprends rien. Les adultes sont devenus fous. Il faut s'enfuir. Mais ma petite grand-mère, elle va être très triste. Oui, mais ça n'a pas d'importance. Après, elle sera contente. Partons!
Maintenant, nous allons décrire la mise en scène.
Sur le plateau, en fait, on voyait des feuilles mortes, des branchages. Sur des arbres, il y avait des maisons en fil de fer. Il y avait aussi des marionnettes. Il y avait aussi les acteurs et le musicien.
Pour moi, les marionnettes rendaient l'histoire plus vivante. Et quand la grand-mère racontait, on avait l'impression qu'on était à l'intérieur de l'histoire.
Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de cette pièce de théâtre?
J'ai découvert la pièce, elle n'était pas encore éditée en livre. Il y a des maisons d'édition, peut-être tu en connais, comme Hachette, comme différentes... Là, c'est théâtral, et j'ai été lire le texte quand il était encore en tapuscrit, c'est-à-dire qu'il n'était pas édité, il était écrit à l'ordinateur. Voilà. Et j'ai eu un coup de cœur quand j'ai lu l'histoire. Et donc, du coup, je me suis dit à un moment donné... On va la mettre en scène, cette pièce. J'ai réuni les acteurs, et puis on a été en lien avec cet auteur qui habite au Mexique. Et donc, du coup, on a aussi discuté avec lui sur ce qu'il avait envie de raconter, et aussi, ce que nous, on avait envie de raconter avec cette pièce. Quand je lis une histoire, je vois ce que je peux imaginer, ou en tout cas, ce qui me donne envie. Quelquefois, la musique est très, très importante. Là, elle l'est, mais là... La marionnette aussi très présente.
Comment vous avez créé la marionnette, les marionnettes?
Avec Thomas et Lydia,
que vous ne connaissez pas, mais qui ont travaillé sur la construction des marionnettes. Et avant de construire ces marionnettes-là, on a travaillé avec Alain, Guillaume et Sylvia, avec la musique et tout ça, à chercher comment on ferait les marionnettes, de quelle taille on les ferait, parce qu'au départ, on est parti sur des petites marionnettes avec des petits morceaux de bois, qui étaient un peu avec des feuilles, des petits morceaux de bois, comme vous voyez là. Et petit à petit, c'est devenu un peu plus grand, puis on les a habillés, on a choisi... Donc ça s'est fait vraiment au fil des répétitions, ça a duré un petit moment quand même. Et on a fini sur un mois à construire, on s'est décidé, on a fait des dessins, et on a fait vraiment voilà, les marionnettes que vous voyez là.
En quoi sont faits les cheveux et ça vous a pris combien de temps environ ?
Ils sont tous faits en matière végétale, parce que Alain, le metteur en scène, il voulait vraiment travailler au départ sur des, avec que des éléments naturels. C'est pour ça qu'on avait fait des petites marionnettes avec des bouts de bois, avec des feuilles, des branches. Et donc les enfants, il y en a qui ont une idée de ce qu'ils ont sur la tête, les deux petits, Sophia et Felipe ?
Felipe, il a de la mousse, et Sophia, elle a de la mousse et des branchages.
C'est ça. Monsieur le curé, il a de l'éponge de mer. Un peu coloré. José, il a de la filasse de coton et de principalement de coton. Ouais. Et Monsieur le maire, lui, c'est de la paille qui est teintée en noir, mais c'était un balai brosse en fait, fait avec de la paille naturelle.
Ça sert à quoi les bouteilles qui sont accrochées aux ficelles ?
C'est pas tout à fait des bouteilles. Et ce sont plutôt des gouttes, comme des gouttes d'eau. Et ça sert, regardez ce que fait Guillaume. Voilà, ça fait ce qu'on appelle un contrepoids. Ça sert à tenir les marionnettes et ça nous permet de les manipuler un petit peu, mais en même temps aussi de ne pas avoir à les supporter avec le bras. Parce qu'il y a des... Voilà, monsieur le maire, par exemple, il pèse son poids. José aussi, le travailleur, mais... Donc si je devais les tenir, même Sylvia, ou si on devait les tenir à bout de bras, on aurait vraiment très vite mal au bras et on ne pourrait pas les tenir, en fait. Donc ça nous aide dans la manipulation. Derrière les têtes, vous avez vu, il y a comme des poignées, en fait, ce qu'on appelle un contrôle. Donc ça permet de tenir et d'orienter la tête, de la guider.
Pourquoi il n'y a que 5 marionnettes et pas d'autres marionnettes ?
Il y a les petites ombres aussi, qu'on considère comme des marionnettes. Mais parce que c'est écrit comme ça, l'auteur, il a écrit pour une comédienne qui joue la grand-mère et qui raconte avec des marionnettes. Et les marionnettes, en fait, les personnages, il y en avait 5 principalement. Donc voilà, ça a fait 5 marionnettes.
Vous avez appuyé le parallèle entre la grand-mère et la petite fille. Est-ce que c'était complètement suggéré ou vous avez appuyé ce parallèle-là ?
C'est un parti pris, c'est une forme de conte. Et dans le conte, on peut un petit peu tout se permettre aussi. Donc on s'est dit que la grand-mère aussi pouvait passer par la petite fille, mais c'est pas forcément écrit comme ça dans le texte.
J'ai cru que j'étais devenue muette, parce que même si j'ouvrais la bouche, c'est comme si je criais dans le désert. Mais malgré tout ça, Sophia continuait sa vie de petite fille. Un, deux, trois, soleil.
Celui qui arrive le premier au bois a gagné, à trois. Un, deux, trois.
Je m'appelle Malak et j'ai 11 ans.
Je m'appelle Maya et j'ai 11 ans.
Alors, vous avez eu peur pendant le spectacle, pourquoi ?
Oui, parce qu'au début, on ne voyait pas les personnes qui étaient cachées en dessous des feuilles.
Au début, quand vous étiez en dessous des feuilles mortes, est-ce qu'il y avait un petit trou pour respirer ?
Oui, on est. C'est vrai que c'est pas forcément pratique ou commode pour nous, parce qu'on... Il y a le temps que vous installez. Il y a, mais voilà, au fur et à mesure, depuis, on apprend à se mettre dans une bonne position, à plus bouger et à pouvoir simplement respirer tranquillement. Et les feuilles sont pas forcément sur notre visage. On fait en sorte de bien que Guillaume nous installe bien, en tout cas.
C'est lui qui met les feuilles. Donc il fait attention pour pas
cette forêt de feuilles.
On n'est pas devant la bouche ou sur le nez ou sur les yeux.
Et que pensez-vous de la grand-mère ? Pourquoi raconte-t-elle cette histoire à ton avis ?
Bah, parce qu'elle raconte qu'est-ce que sa fille, elle a vécu.
Oui.
Et bah, parce qu'elle tient à sa fille, parce que son père, c'est un incapable.
Et toi, qu'est-ce que tu en penses?
Voilà.
Moi, je pense que c'est génial, même si au début, j'ai eu peur, mais c'était incroyable.
Pourquoi c'était incroyable?
Bah, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'émotions, et parfois, ça me touchait, parce que... On ne peut pas obliger une fille de pleurer juste pour vendre de l'eau. Du coup, bah, j'ai eu plusieurs émotions à la fois.
Quelque chose qui m'a marqué, c'est quand il tapait la petite fille. C'était pas trop gentil.
J'étais un petit peu triste pour Sophia parce que la manière dont on l'a traitée, bah, c'est pas sympathique. C'est comme si on forçait quelqu'un à être en colère alors que la personne n'a pas envie.
Est-ce que ça existe une petite fille qui a des larmes d'eau douce?
Je pense pas.
Ouais, on pense pas.
Est-ce que ce conte nous parle quand même de notre monde? Est-ce que ce monde existe, un monde que les enfants travaillent? Est-ce que ça existe les parents qui vendent leurs enfants ou qui le traitent mal?
Les parents qui traitent mal les enfants, je pense que oui, parce que dans différents pays, c'est pas la même loi que dans d'autres pays. C'était quoi l'autre question?
Est-ce qu'il y a des enfants qui travaillent dans le monde?
Oui, parce qu'il y en a, ils n'ont pas assez d'argent et leurs parents, ils leur obligent à travailler.
Quand j'ai choisi cet spectacle pour qu'on vienne avec les enfants, et j'avais un peu peur parce qu'il parlait de pleurer une gamine et tout ça. J'ai pensé que ça peut être, je sais pas, des choses qu'on a l'habitude en ce moment de faire pleurer les gens, pour une tristesse en fait. Et non, en fait, je suis très contente de voir que c'était. C'était des pleurs poétiques qui donnaient une possibilité aux enfants de rêver, de imaginer en fait un monde très poétique, très sensible, et que aussi avec les arguments très sociologiques, je trouve, et ça c'est que ça vraiment ça l'a enrichi énormément. Et votre personnage, la grand-mère avec les cheveux blancs, c'était tout une rêve, et je la trouve sublime en fait, vraiment comme que vous sortez d'une conte russe en fait, je sais pas, c'est pour moi c'était très très adorable.
J'ai une question un peu personnelle. Est-ce que vous avez aimé qu'est-ce que vous avez fait?
Ce spectacle, oui, est très important pour nous. Le sujet du spectacle, voilà, la poésie du spectacle, ce que le spectacle véhicule, c'est très important pour nous de le jouer, oui.
C'était les petits correspondants du théâtre Antoine Vitesse. À bientôt pour une nouvelle écoute.
Et si vous avez le petit livret du spectacle, il y a un coloriage avec tous les personnages. Faites comme moi, coloriez-le.
À bientôt.
Abdoulaye, premier épisode. CM2. École Albert Einstein, classe de Philippe C. Aujourd'hui, mardi 10 janvier 1995, Abdoulaye Djemoke va vivre son premier jour d'école en France, car il a dû quitter son pays natal, le Zaïre. C'est son oncle qui l'a accueilli. Il vit à Ivry-sur-Seine, une ville de banlieue parisienne. Il est 14h quand, accompagné de son oncle, il va rencontrer pour la première fois la directrice de l'école Picasso. Il est très intimidé, ne prononce plus un mot. Des frissons lui parcourent le corps. Malgré ses 12 ans et sa grande taille, il serre la main de son oncle. Quand il pénètre dans l'école, une charmante femme blonde aux yeux bleus les accueille chaleureusement. Ah, bonjour! Je suis enchantée de faire votre connaissance. Vous devez être le père de ce charmant jeune homme dont monsieur l'inspecteur m'a parlé. Bonjour, madame la directrice. C'est bien Abdoulaye, votre nouvel élève, mais je ne suis pas son père. Je ne suis que son oncle. Oh, entrez dans mon bureau. Nous y serons plus à l'aise. J'ai quelques petits papiers à vous faire remplir. Puis, je vous ferai visiter notre établissement et Abdoulaye. C'est un prénom zaïrois. Assez difficile à prononcer. Excusez-moi. Ensuite, je vous présenterai la classe. Le maître, Monsieur Carrier, et ses nouveaux camarades. Une fois ces formalités remplies, tous trois visitent l'école. Abdoulaye n'a pas encore prononcé un mot. Il ne peut pas s'empêcher de s'exclamer. Oh, mais quelle belle école ! Madame la directrice ! Oh, je suis heureuse qu'elle te plaise. Tu y feras sûrement de brillantes études. Tu peux m'appeler Marie, hein ? Ici, tous les enfants m'appellent ainsi. Oh, merci, madame... Marie. La visite achevée, l'oncle laisse Abdoulaye avec la directrice pour qu'il fasse connaissance avec sa classe. La directrice frappe à la porte. Une voix grave traverse les murs, ce qui effraie un peu Abdoulaye.
Entrez !
La directrice ouvre la porte et entre, accompagnée d'Abdoulaye. Bonjour, monsieur Carrier, bonjour les enfants.
Bonjour, Marie !
Répondent les enfants en chœur, le regard fixé sur Abdoulaye. Ils sont impressionnés par sa grandeur. Il dépasse largement la directrice. Il est aussi grand que le maître. Le visage d'Abdoulaye surprend aussi les élèves. Ses joues portent des cicatrices et sa peau est d'un noir profond. La directrice fait les présentations. Voici un nouvel élève qui arrive du Zaïre. Il se nomme Abdoulaye.
Après la lecture de ce premier épisode du livre Abdoulaye par Daniel Pasquier, cette dernière nous donne quelques explications sur ce projet fédérateur mené au début des années 1990 avec l'aide de Marie-Claude Boyer.
Ce projet Abdoulaye, c'était ceci, l'initiative de Philippe Colomines, qui a quand même été un grand instituteur qui a porté énormément et qui était sur l'école Einstein. Il a initié un projet qui a eu quand même un retentissement, j'ose dire international, puisqu'il a été ponctué par le deuxième prix international en langue française d'action de prévention. La classe de Philippe avait commencé une rédaction et effectivement le fait de le dire d'un petit texte. C'était un enfant, Abdoulaye, qui vient d'un pays étranger et qui aboutit dans une école qui ressemble étrangement à l'école Einstein, mais elle s'appelle Picasso. Et il a plein de problèmes, des problèmes d'enfant. La première émission se terminait par « Comment être aidé ? Où trouver de l'aide ?» Et les classes qui écoutaient ont eu pour mission, de la même façon qu'on fait les livres dont vous êtes le héros, de trouver une solution pour Abdoulaye et de continuer un texte. Donc comme il y avait plusieurs écoles, il y a eu 18 écoles qui ont participé tout au long de l'année, dont des CM1, des CM2, un PERF, et chaque classe, ou pas, enfin, certaines classes, plusieurs classes, proposaient des solutions et continuaient un texte. Et le texte se terminait par une autre interrogation en mettant en scène d'autres enfants. Il y avait une petite fille, Anane, la petite Anane. Et chaque enfant avait son problème. Il y en avait un qui était un enfant malheureux à l'école et peut-être aussi à la maison, où trouver de l'aide. Il y en a un qui était rejeté, peut-être un petit peu harcelé, où trouver de l'aide. Ces émissions ont constitué un grand feuilleton radiophonique relayé dans toutes les écoles, vraiment selon la volonté vraiment de Madame Lotroïc, la fin de l'année. On s'est dit, il faut continuer. Donc on en a fait un livre, un petit livre qui s'appelle Abdoulaye, qui a été illustré par les enfants aussi. Donc,
Abdoulaye, mon ami.
Abdoulaye, mon ami. Toute cette année a été soutenue aussi par les médecins scolaires, les psychologues scolaires qui intervenaient et qui pouvaient recevoir les enfants
en petits groupes ou même individuellement si l'un d'entre eux avait justement l'envie de dire quelque chose. Ça, c'était quand même extraordinaire.
Et au
niveau
pédagogique, on avait travaillé avec l'ensemble des maîtres, les 18 écoles. Et on avait travaillé qu'est-ce que ça voulait dire écrire ensemble.
Oui.
Et c'était difficile pour des enfants. Qu'est-ce que c'est que écrire ensemble? Donc, on était passé par le jeu théâtralisé d'abord. Et après, les enfants transcrivaient ce qu'ils avaient joué. Donc, il y avait le départ. Ouais. Et après, c'était forcément 4 classes qui proposaient. Et en nouveau, 4 classes. Donc, le livre, c'est un livre comme les livres dont vous êtes le héros. Mmh. On peut aller... en fait, ça fait beaucoup d'histoires.
Ouais.
C'est multiplié.
Ouais,
voilà. On peut inventer plein d'histoires.
Voilà. Voilà ce que je peux dire.
Et là, il y a eu un enthousiasme de la part des enseignants, de la part des enfants, puisqu'il fallait trouver des suites à quelque chose qui était donné au départ. Et on s'est aperçu qu'il y avait des fuites au centre de loisirs. Ils échangeaient la suite qui était qui avait été faite par l'autre classe pour savoir avant comment ça allait se passer. Ça nous a beaucoup fait rire.
Ils avaient compris le système.
Ils avaient compris le système. Voilà.
C'était en 1995. J'aime bien les dates. Hein.
Oui, moi pas du tout.
93-94 et 94-95, le livre a été écrit.
Et c'est ça le livre.
Voilà. D'abord, il a été fait d'une façon radiophonique et il a débouché, c'était un tel projet extraordinaire, qu'il a débouché sur le livre illustré par les enfants.
Mais réécrit par les adultes au plus près des écrits des enfants, parce que c'était de l'oral de radio. C'était donc des échanges oraux et ce n'était pas un texte.
Tout à fait.
Donc c'est là, vrai. On l'a fait pour les enfants parce que ça devenait trop long et trop difficile.
Abdoulaye, mon ami, rappel du premier épisode écrit par le CM2 de l'école Einstein. Abdoulaye Djemoke, un Zaïrois, débarque en France chez son oncle à la suite d'une blessure au pied. Les habitants de son village Bama luttent contre les Niamey qui veulent leur voler leur puits. Après avoir visité sa nouvelle école, l'école Picasso, Abdoulaye va vivre sa première journée très mouvementée. Il se fait insulter par Roger, un raciste, à qui il donne un méchant coup de poing. Il fait connaissance d'une fille algérienne, Anan, qui le défend et qui devient son amie. À la sortie de l'école, Roger et sa bande l'attendent, mais il s'enfuit vite. Il ne veut pas se battre. Arrivé chez son oncle, il raconte sa journée. Il est malheureux car il ne s'est pas fait d'amis et ainsi il décide de ne plus aller à l'école. Triste, il se jette sur son lit et s'endort en pensant à sa famille. Deuxième épisode. Profondément endormi, Abdoulaye fit un horrible cauchemar. Il voyait sa mère qui essayait de comprendre un panneau et qui soupirait. Ah, que j'aimerais savoir lire et écrire comme mon fils. En effet, elle ne savait ni lire ni écrire, malgré l'inscription en grosses lettres. Territoire des Niamey, défense d'entrée. Elle y entra et se fit attaquer par un groupe de Niamey. Ce n'était qu'un rêve, mais terrorisé, Adoulaïd se réveilla et cria. Non, non! Son oncle, qui dormait dans la pièce d'à côté, l'entendit crier. Il accourut dans sa chambre et lui dit.
Que se passe-t-il, Abdoulaye?
Rien, juste un mauvais rêve.
Alors rendors-toi, nous en parlerons demain matin au petit déjeuner.
Abdoulaye se rendort en pensant qu'apprendre à lire et à écrire aurait pu aider sa mère. Et il se décide à retourner à l'école. Le lendemain matin, Abdoulaye traîne et se lève au dernier moment. Il ne veut pas parler de son rêve à son oncle. Il part très vite en disant
« Au revoir, je suis en retard. »
« Et ton petit déjeuner ?»«
Tu vois bien que je suis en retard et puis je n'ai pas faim. Au revoir, à ce soir. »
Il ferme rapidement la porte et dévale les escaliers 4 à 4. Abdoulaye a pris sa décision. Il veut repartir au Zaïre. En bas de l'immeuble, il rencontre Anan.
Je ne croyais pas que tu viendrais me chercher.
Puis, il se dirige vers l'école. Abdoulaye se demande s'il va lui faire part de sa décision de partir. Ils entrent maintenant dans la cour de l'école et Abdoulaye se décide à parler.
Dis, Anan, tu peux garder un secret ?
Bien sûr ! Qu'est-ce que c'est ?
Ma famille est en danger au Zaïre. Je dois aller les voir.
Comment ça, en danger ? Ah oui, tu m'as déjà dit, mais rappelle-moi de quoi il s'agit.
Ma famille est en danger au Zaïre, parce que les Niamais, ils attaquent pour leur voler leur pluie. Je voudrais savoir comment vont mes parents.
Mais comment vas-tu faire ?
Je me débrouillerai.
À ce moment-là, une branche craque. Ils savent que quelqu'un les a entendus. Mais qui est-ce ? La sonnerie retentit. Les élèves se rangent dans la cour et attendent leur maître, Monsieur Carrier. Abdoulaye et Anan, en queue de rang, sont inquiets. Ils observent leurs camarades. Qui les a écoutés ? Tout à coup, Marie, la directrice, arrive et leur dit
« Votre maître m'a téléphoné. Il ne pourra pas venir. Il a la grippe. Je vais vous répartir dans les autres classes. Toi, Abdoulaye, tu vas aller en CM2B. Et toi, Anan, en CE2A. »
Abdoulaye et Anan sont déçus. Ils auraient bien voulu être ensemble pour continuer leur conversation. Ils le demandent à la directrice.
« Non, pas question. Si tout le monde en fait autant, je n'en finirai pas. Je continue. Toi, Hervé, tu vas avec Abdoulaye et toi, Jérôme, avec Anan. »
Elle fait de même avec tous les élèves de la classe. Abdoulaye et Anan font une drôle de tête. Hervé et Jérôme, des copains de Roger, s'en rendent compte. Hervé s'approche d'Abdoulaye et d'Anan.
« Vous voulez qu'on change ? Je vais avec Jérôme en CM2B et vous vous retrouvez ensemble en CE2A. »
Tu crois ? C'est quand ça va pas nous poser de problème.
Mais non, je l'ai déjà fait l'autre fois. Mais motus et bouche cousue.
Bon, d'accord.
La directrice dit. Et maintenant, allez dans les classes que je vous ai indiquées.
Les élèves prennent leur cartable et partent par groupe de deux. Abdoulaye, Anan, Jérôme et Hervé s'arrangent pour être les derniers. Et dans le couloir, ils font l'échange. Abdoulaye et Anan frappent à la porte du CE2A.
Entrez et allez vous asseoir au fond. Et parlez doucement, ne me dérangez pas.
Ils s'installent rapidement sans faire de bruit. Roger, l'adversaire d'Abdoulaye, et Pierre, le meilleur ami de Roger, se retrouvent ensemble dans une autre classe.
Hey, tu sais, Pierre, j'ai espionné Abdoulaye et Anan ce matin. Ils sont arrivés ensemble. Tu ne sais pas ce qu'ils ont dit.
Non, je ne sais pas.
Alors, essaie de deviner.
Je ne sais pas, moi. Abdoulaye veut se battre avec toi ?
Mais non, il n'est pas de taille à m'affronter.
Alors, tu me racontes ?
Bon, d'accord, je te l'ai dit. Eh bien, il va se tirer.
Quoi ? Il va faire une fugue ?
Ben ouais, c'est pour ce soir.
Pendant ce temps, Abdoulaye et Anan continuent leur conversation.
Dis, Anan, tu sais qui aurait pu nous écouter ce matin?
Il n'y en a qu'un pour faire ça. Ça ne peut être que Roger.
Comment peux-tu en être sûr?
Mais si, rappelle-toi, il était rangé quand il est arrivé.
Leur conversation est subitement interrompue par la sonnerie de 10h30. Tous se rangent et descendent dans la cour. Roger, avec un grand mouvement de bras, dit à sa bande.
Venez, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Vous savez, Abdoulaye, il veut fuguer. Je l'ai espionné ce matin quand il parlait avec Anan. Et j'ai entendu leur conversation.
Pierre intervient.
Mais pourquoi veut-il partir?
Qu'est-ce que j'en sais? Parce qu'on lui fait peur. Tiens, je viens d'avoir une idée. Si on lui tendait un piège?
Oui, mais quelle sorte de piège?
On l'attendra à la sortie et on l'obligera à nous dire où il veut fuguer.
À ce moment-là, Pierre vit Abdoulaye et Anan se diriger vers les toilettes. Il dit
« Je vais aux toilettes. Continuez, je reviens vite. »
Pierre rejoint Abdoulaye et Anan discrètement et leur fait signe de le suivre. Il ne veut pas être vu de Roger et de la bande.
Il annonce
« La bande à Roger va te tendre un piège. Ils vont t'attendre à la sortie. Ils veulent savoir où tu veux fuguer. Et ils veulent sans doute te dénoncer. »
« Moi, fugue ?»
Mais Pierre n'a pas entendu. Il était déjà reparti. La sonnerie retentit. Les élèves se rangent et montent en classe. Abdoulaye et Anan, sur l'instant, se sont demandé de quoi Pierre voulait parler. Mais ils ont vite compris que c'était bien Roger qui les avait entendus ce matin et qui avait mal interprété le secret d'Abdoulaye. Le midi, Roger ne mange pas à la cantine. La bande en profite pour commenter le piège de Roger. Tous ne comprennent pas pourquoi Roger s'acharne sur Abdoulaye. Alors, Pierre prend la parole.
J'ai prévenu Abdoulaye que Roger l'attendrait à la sortie.
Très bonne idée.
Il faudra ralentir Roger dans le couloir.
Mais comment?
On lui accrochera son blouson à un porte-manteau au bout du couloir.
Parfait. Ils ne disent rien jusqu'à ce soir.
L'après-midi se déroule sans problème comme prévu. Déjà la sortie des classes arrive. Tous les élèves sortent. Abdoulaye est un des premiers à sortir de l'école. Roger sort et cherche son blouson que Pierre a caché au fond du couloir avant de rentrer en classe. Roger est furieux. Il court dans le couloir en grognant et en interpellant ses copains.
Vous ne pourriez pas m'aider à chercher mon blouson au lieu de me regarder sans rien faire?
Ils font semblant de chercher un peu et se dirigent vers la sortie. La directrice qui passe dans le couloir ramasse un blouson et, arrivée à côté de Roger, lui dit
« Ne serait-ce pas ceci que tu cherches ?»
Et elle lui montre le vêtement qu'elle a trouvé.
« Oui, merci madame, c'est bien le mien. »
Et il part en courant, en espérant que ses copains ont réussi à rattraper Abdoulaye. Pendant ce temps, Pierre et les autres rattrapent Anan et la questionnent.
« Où se trouve Abdoulaye ?»
demande Pierre.
« Je ne sais pas. Je ne dois pas le dire, »
répond Anan.
Pourquoi ne veux-tu pas le dire ? Je ne vous fais pas confiance. On a lâché Roger. Maintenant, tu peux nous dire où il se cache. Alors suivez-moi. Nous allons chez son oncle.
Tous partent en courant chez l'oncle d'Abdoulaye. Il sonne. L'oncle ouvre la porte et voit Anan. Alors il comprend tout de suite que la visite est pour Abdoulaye. Et il l'appelle.
Abdoulaye, c'est pour toi.
J'arrive, qui est-ce ?
Dépêche-toi.
Et il fait entrer les enfants. Abdoulaye court dans le salon et s'arrête brusquement, surpris de voir Anan avec les copains de Roger.
Pourquoi êtes-vous venu ?
Demande Abdoulaye.
Tu sais, on est avec toi maintenant. On a laissé tomber Roger parce qu'on en a marre de jouer les racistes. Le piège que voulait te tendre Roger est trop méchant. Et maintenant, tu peux nous dire pourquoi tu veux partir.
Mais je ne veux pas partir.
Allez, dis-le-nous. Ce n'est pas une honte de vouloir partir.
Parce que j'ai fait un cauchemar. Je voyais ma mère se faire attaquer par les Niamis. J'ai peur que ce soit la réalité. Et maintenant, je veux voir ma famille ou avoir des nouvelles.
Mais si tu y vas, tu seras aussi en danger. Rappelle-toi, tu es venu en France à cause de ta blessure au pied.
Abdoulaye ne sait plus quoi faire. Il sait qu'il a des amis maintenant. Il est content, mais ses parents et ses sœurs lui manquent. Comment faire pour avoir de leurs nouvelles ? Il est si loin d'eux, de son pays. Et quelle va être la réaction de Roger ?
C'était le deuxième épisode d'Abdoulaye, mon ami. Réalisé par le CM2 d'Annick Lecomte de l'école Jacques Solomon.
Bonjour, notre école s'appelle Amocha, nous sommes dans la classe de CM1A, notre maîtresse s'appelle Nadine.
Nous avons passé beaucoup de temps avec les médecins scolaires pour faire la suite d'Abdoulaye mon ami.
Nous sommes contents de vous présenter ce que nous avons imaginé. Le lendemain matin, Anan est à peine arrivé dans la cour que Roger l'aborde d'un air agressif.
Alors, il a peur ton sauvage. Il est retourné dans sa forêt.
Allons, Roger, tu ne vas pas recommencer. Laisse-nous un peu tranquille.
Ok, pour quand le mariage ?
Et alors, ce n'est pas tes oignons. Et d'abord, Abdoulaye est plus fort que toi et plus intelligent. Anan hausse les épaules et essaie de s'éloigner. Mais Roger la rattrape brutalement par la poignée de son cartable.
Ne redis jamais ça. Sinon...
Roger lève la main, prêt à la frapper. Arrête de crâner, tu ne me fais pas peur, mauviette. C'en est trop pour Roger. Sa main atterrit sur la joue d'Anan, en laissant une belle marque rouge. Roger file rejoindre sa bande, tandis qu'Anan, au bord des larmes, se dirige vers la classe. La sonnerie retentit.
Anan a beau regard de tous côtés, Abdoulaye n'est pas encore arrivé.
A-t-il eu peur de revenir à l'école ?
Anan n'est pas loin de la vérité, car lorsqu'il s'est réveillé ce matin-là, Abdoulaye n'avait vraiment aucune envie d'aller à l'école. Son oncle essayait de l'encourager et Abdoulaye, préoccupé, finit par prendre son cartable et sort de la maison. Il hésite encore beaucoup, fait quelques pas vers l'école, revient en arrière, fait le tour du pâté de maison.
Si je vais à l'école,
Il va encore me chercher des histoires et m'insulter. Mais si je n'y vais pas, je serai un lâche. J'aurai l'air d'avoir peur. Et puis un âne m'a aidé hier. Ils vont l'embêter et elle a peut-être besoin de moi.
À cette pensée, Abdoulaye se décide. Il doit revenir à l'école. Il se met à courir et arrive juste au moment où les élèves de M. Carrier viennent de s'installer dans la classe. Essoufflé et gêné d'être en retard, Abdoulaye s'excuse.
Tu n'as pas encore l'habitude de nos horaires, Abdoulaye ? Ce n'est pas très grave pour aujourd'hui, mais demain, il faudra essayer de te réveiller plus tôt.
Abdoulaye et M. Carrier ont tous les deux remarqué la joue rouge d'Anan. Mais Abdoulaye n'ose pas lui parler et M. Carrier pense qu'il éclaircira plus tard cette histoire.
Maintenant, les enfants, nous allons commencer par un travail d'expression écrite. Prenez une feuille de classeur et chacun va raconter en quelques lignes sa soirée d'hier.
Tous les enfants écrivent, sauf Roger qui, l'air maussade et buté, garde la tête dans ses mains et se contente de faire des vagues sur sa feuille.
Un quart d'heure plus tard, voyant que tout le monde semble avoir terminé, M. Carrier s'adresse à la classe.
Qui souhaiterait nous lire son texte à haute voix ?
Plusieurs mains se lèvent aussitôt. Anan,
tu veux commencer ?
Hier soir, je suis sortie de l'école avec Abdoulaye. Nous bavardions, il me parlait de son pays, quand tout à coup, Roger et sa bande nous ont agressés, mais nous n'avons pas voulu nous battre et nous nous sommes enfuis en courant. En rentrant chez moi, une surprise m'attendait. Mon père, qui est aviateur, était rentré plus tôt que prévu de son voyage au Congo. Et il m'a même ramener un cadeau un peu bizarre. Pour fêter ce retour, nous sommes tous allés dîner dans un restaurant africain.
D'autres enfants lisent aussi leur texte. Puis arrive le tour de Jérôme. Son intervention intéresse particulièrement Abdoulaye. En effet, après avoir raconté son entraînement au judo, Jérôme annonce.
Le président du club a décidé que jusqu'à la fin du mois, des initiations gratuites seront proposées tous les mardis et vendredis pour permettre à tous ceux qui s'y intéressent de découvrir le judo.
C'est alors que M. Carrier remarque Roger en train de bâiller. Roger, toi qui as l'air de t'ennuyer, tu vas nous lire ton texte.
Roger, honteux, devient rouge comme une tomate. Il refuse de parler. Monsieur Carrier se dirige vers lui.
Ah ! Je vois que tu n'as rien écrit. Très bien. Roger, je vais te garder un peu pendant la récréation. On a besoin de parler tous les deux. Ainsi que toi, Anan, j'ai quelques questions à te poser.
Au moment de la récréation, donc, quand tous les enfants sont sortis, Monsieur Carrier s'adresse d'abord à Anan.
Que s'est-il passé ce matin ? Tu avais la joue toute rouge et on aurait dit que tu pleurais. Ce ne serait pas encore une histoire de Roger ?
Oui, c'est moi. Anan m'a provoqué, elle m'a traité de crâneur et de mauviette. Moi, quand on me cherche, on me trouve.
Sais-tu qu'on n'a pas le droit de taper une fille, même avec une rose ?
Ce n'est pas très grave, monsieur. C'est vrai, c'était aussi un peu de ma faute, mais j'aimerais bien que Roger me fiche un peu la paix.
Merci, Anan. Tu peux rejoindre tes amis.
Roger baisse la tête et reste silencieux.
Si cela continue, je vais être obligé de convoquer tes parents.
À ce moment, Roger s'effondre ou sanglote.
J'en ai assez. Tout le monde me rejette.
Quoi, tout le monde ? Qu'est-ce que tu veux dire ?
Oui, tout le monde. Anan, ma mère.
Ta mère ? Qu'est-ce que tu racontes ? Elle s'occupe très bien de toi.
Avant, oui, mais plus maintenant. Maintenant, il y a un nouveau dans sa vie, un autre homme. Un de Côte d'Ivoire. Et moi, j'existe plus. Je vois plus mon père. Et le nouveau, il voudrait que je l'appelle papa en plus. Il me traite
comme un esclave. Si j'ai rien écrit tout à l'heure, c'est parce que hier soir, ils étaient même pas là. Et moi, j'étais tout seul avec mon chien. Si ça continue, je m'enfuirai, j'irai chez ma grand-mère.
Radio Cartable. La radio des écoles d'Ivry.
Radio Libertaire 89.4, vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand avec à la technique Flo Descailloux, que je salue au passage, et qui vous a concocté un festival musical que vous allez découvrir en cours d'émission. Aujourd'hui, nous recevons Gérard de Cortance pour Il ne rêvait plus que de paysages et de lions au bord de la mer. C'est un roman, ça vient de paraître chez Albin Michel, c'est en librairie depuis hier. Donc vous voyez, je suis pile poil dans les temps, et ça nous raconte, c'est un roman très émouvant qui nous relate les derniers jours d'Ernest Hemingway. Gérard de Cortance, bonjour.
Bonjour.
Alors c'est vrai, j'étais impressionnée d'ailleurs par votre par les livres que vous avez publiés, 90 livres, 25 traductions je crois. Vous êtes un homme pluridisciplinaire, on pourrait dire, grand voyageur, j'ai cru comprendre, et grand lecteur, et
une plume
voyageuse.
Oui, oui, tout ça, oui, mais je ne sais pas trop pourquoi, d'ailleurs.
Alors,
je ne me pose pas la question.
Le roman est dédicacé, je crois, à un écrivain, un romancier que j'aime beaucoup, c'est Paul Auster.
Ah oui, c'était vraiment un ami très proche. Très proche, et donc il a eu la mauvaise idée de partir trop tôt.
Oui, nous a quitté cette année.
Oui, exactement.
Et il y a un secret là qui le lie avec ce livre
Oh non, le secret, oui, j'ai dédié à Paul Auster, point de suspension, notre secret.
Oui.
Moi je peux vous le révéler, parce que alors, parce qu'en fait on a écrit tous les deux, on s'en aperçut en discutant, on a écrit tous les deux un livre sous pseudonyme. En pensant qu'on allait gagner beaucoup, beaucoup d'argent avec ce livre sous pseudonyme. Et en fait, on n'a pas du tout gagné beaucoup d'argent avec ce livre sous pseudonyme. Et voilà, donc on se l'est offert mutuellement. Oui. Mais surtout à l'époque où il m'a offert le sien, et il m'avait dit surtout ne révèle jamais que c'est moi qui ai écrit le livre, parce qu'on ne le sait pas. Le livre était publié en France aussi, mais on ne doit pas révéler que c'est un livre de Paul Auster.
Donc c'est un jeu de masque, d'ailleurs, ça rejoint votre roman, parce que Hemingway parle avec ses fantômes, parle avec ses personnages, parle avec les ombres de son œuvre. C'est comme une traversée du miroir aussi, ce roman.
C'est ça, c'est-à-dire, en fait, c'est la dernière année de vie d'Hemingway.
Ouais. Qui est mort en 61, 62
et 61
ça, voilà.
En juillet 61.
Même moi que Céline.
Voilà, et il confond un peu la réalité et la fiction. Et il y a un certain nombre de ces personnages, pas tous, hein, mais un certain nombre, qui viennent dialoguer avec lui. Enfin, il les retrouve et il confond souvent ces personnages avec des agents du FBI qui le poursuivent. Et ça, ça on, on rejoint vraiment la réalité, parce qu'au fond, on en parlera longuement dans l'émission, mais il a vraiment été poursuivi par le FBI.
Alors, c'est votre troisième livre sur Hemingway, hein, d'après ce que j'ai cru comprendre.
Oui, c'est vrai.
Et là, vous abordez l'homme de la fiction. Alors, est-ce que l'imaginaire vous permet, alors, je ne vais pas vous dire, poser l'éternelle question un peu tarte à la crème, et pourquoi un roman ? Mais et pourquoi un roman ? Néanmoins, est-ce que l'imaginaire vous permet de saisir un angle très particulier d'Ernest Hemingway ?
Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'idée, c'était de mettre dans la tête d'Ernest Hemingway. Les deux précédents livres...